Europe 1, il est 6h.
On a trouvé très bien que il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. Il fallait résister, il fallait continuer à se battre.
Yves Meyer avait 16 ans quand il a entendu l'appel du général de Gaulle lancé il y a 80 ans, jour pour jour. 96 ans aujourd'hui, il témoigne sur Europe 1 ce jour anniversaire. Appel commémoré aujourd'hui par Emmanuel Macron du Mont-Valérien jusqu'à Londres, journée riche en symboles que nous détaillerons. Protocole très allégé dans les écoles, surtout en maternelle, rentrée pour tout le monde lundi prochain. Allègement aussi dans les crèches, nous appellerons dans ce journal la co-responsable petite enfance à l'Association des maires de France. Des milliers de postes menacés de suppression à Air France, conséquence de la crise sanitaire. Les syndicats écarquillent les yeux. À quoi servent alors les 7 milliards de prêts garantis par l'État?
La question qu'on va se poser, c'est est-ce que les 7 milliards qui ont été accordés à France doivent servir à supprimer des emplois. Nous, on pense qu'ils doivent servir à les maintenir.
Et puis, grande émotion à Rothley, petite ville en Angleterre où a grandi la petite Maddy, disparue il y a 13 ans au Portugal. Elle serait morte, selon des enquêteurs allemands.
Ça nous rend vraiment tristes. On avait l'espoir de la retrouver en vie. On espère maintenant connaître la vérité.
Juste après ce journal, une télé-réalité sur le football avec un contrat pro à la clé. C'est le projet porté par mon invité inattendu, l'ancien footballeur Tony Vérel, dans quelques minutes. 6h25, le meilleur et le pire des réseaux sociaux avec Paul Lassaigne qui s'est couché tard pour vous raconter la finale de Top Chef sur Twitter. Il est 6h01, très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
C'était il y a 80 ans, jour pour jour, un adolescent près de Montpellier, touché au cœur par les mots du général de Gaulle qu'il entend à la radio 18 juin 40, l'appel qui change le cours de l'histoire.
Yves Meyer avait 16 ans, c'est le déclic, il s'engage dans la résistance, il a aujourd'hui 96 ans. Pour Europe 1, lors d'Autriche, l'a rencontré. Il raconte son histoire, témoignage rare.
Il ne sait plus si c'est dans un hôtel ou dans un bar qu'il a entendu l'appel du général de Gaulle. Mais Yves Meyer se rappelle qu'ils étaient plusieurs autour d'un petit poste de radio à Palavas-les-Flots, où il est alors avec sa famille. Il a 16 ans.
Il fallait continuer à se battre. On a trouvé très bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. À l'époque, c'était un général, bon, mais il y en avait des quantités de généraux. Ça n'avait aucune signification. Ce qui comptait, c'était Winston Churchill.
Yves Meyer s'engage immédiatement dans la résistance. Il est arrêté par la Gestapo, réussit plusieurs fois à s'évader, mais il se fait prendre à Rouen en 44, trahi par un agent double qui parlait aussi bien allemand que français et qui l'a piégé lors d'un rendez-vous.
Il y a un Allemand qui m'a rattrapé, qui a ouvert le feu avec sa mitraillette presque à bout portant. J'ai eu le veston traversé et pas une égratignure. Bon, interrogatoire plus que musclé avec baignoire et tout le truc. J'avais la chance d'être un excellent nageur. J'ai peut-être retenu ma respiration plus que d'autres.
Déporté à Dachau en juillet 44, Yves Meyer ne pèse que 32 kilos à son retour 10 mois plus tard. Après-guerre, il crée son entreprise d'imprimerie et restera toute sa vie un fidèle gaulliste. Un
témoignage recueilli par Laure d'Autriche, les 80 ans de l'appel du général de Gaulle, commémoré aujourd'hui par Emmanuel Macron, journée chargée pour le président. Riche en séquences et en symboles, Jean-Rémy Baudeau.
Trois étapes pour une journée autour de la figure du général de Gaulle. Dans la matinée, Emmanuel Macron se rendra au musée de l'Ordre de la Libération, puis aux traditionnelles commémorations du Mont-Valérien, au mémorial de la France combattante. Mais le point fort de la journée du président sera outre-Manche. Malgré les restrictions sanitaires, Emmanuel Macron passera l'après-midi à Londres, capitale de la France libre, rappelle l'Élysée. Premier déplacement à l'étranger pour le président depuis la crise du Covid, cette journée sera faite de cérémonies et d'échanges bilatéraux avec le prince Charles et le Premier ministre Boris Johnson. Parmi les symboles, Emmanuel Macron remettra la Légion d'honneur à la ville de Londres. Il y prendra aussi la parole. À l'heure où le passé de la France et de ses figures historiques sont parfois remis en cause, Emmanuel Macron devrait rappeler aujourd'hui que le général de Gaulle est pour lui, comme l'explique l'un de ses proches, un exemple.
Marine Le Pen, elle a tenté hier de commémorer cet anniversaire. La présidente du Rassemblement national, huée par des habitants dès son arrivée sur l'île finistérienne de Saint, symbole de la résistance. Marine Le Pen dénonce, je cite, des milices d'extrême gauche qui empêchent la démocratie de fonctionner.
Europe 1, il est 6h04.
Fini la distanciation entre enfants d'une même classe à l'école maternelle.
Protocole sanitaire très allégé annoncé hier soir par le ministre de l'Éducation nationale afin qu'un maximum d'élèves puissent être accueillis dès lundi prochain. En élémentaire, distance d'un mètre dans les classes, quand c'est possible. Même chose au collège, mais là, les ados pourront porter un masque s'ils sont trop proches.
Allègement du protocole. Dans les crèches aussi, le masque n'est plus obligatoire pour les puéricultrices et tout le personnel, mais plusieurs mesures d'hygiène et de protection restent en vigueur.
Bonjour Elisabeth Laitier.
Oui, bonjour Mathieu.
Vous êtes coprésidente du groupe Petite Enfance à l'Association des maires de France et on vous a retrouvé à plusieurs reprises pendant le confinement notamment. On vous imagine là ce matin soulagée par l'allègement du protocole.
Ah oui, tout à fait. C'est un véritable soulagement à la lecture de ce protocole parce que l'assouplissement des mesures sanitaires était vraiment attendu de nous tous, d'autant que nous sommes dans un contexte d'atténuation de l'épidémie et que parallèlement, voilà, nos connaissances sur l'impact du virus sur les tout-petits ont progressé. Il n'avait donc plus lieu d'être aussi strict qu'il l'était.
Alors, Elisabeth Laithier, dimanche dernier, le président a dit « les crèches accueilleront tous les enfants à partir du 22 juin ». En vrai, ce ne sera pas le cas.
Bon, alors écoutez, en vrai, c'est ce vers quoi nous allons tendre, puisque effectivement, par exemple, la levée de la distanciation pour les siestes, pour les repas a disparu, qu'il n'y a plus de limitation de nombre d'enfants pour les groupes, qu'ils peuvent se croiser tout en ne se mêlant pas, mais la mise en œuvre totale risque d'être délicate, car il reste une inconnue qui est difficile à maîtriser, qui est le retour de l'ensemble de nos professionnels auprès des enfants. Voilà, un certain nombre d'agents n'ont pas tous repris, soit pour garder leurs enfants non scolarisés, donc là, nous espérons que ça devrait disparaître, soit pour raisons de santé. Bon, par exemple, Bordeaux, 15% des professionnels n'ont pas encore repris, Nantes, 30%, Nice, 25%. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas à plein au niveau des personnes qui vont être auprès des enfants.
Merci beaucoup, Elisabeth Laithier, à surveiller donc, la présence des effectifs à partir de lundi. Elisabeth Laithier, coprésidente du groupe Petite Enfance à l'Association des maires de France. Merci d'avoir été en direct ce matin, l'invité du journal de 6h d'Europe 1.
La sortie de l'état d'urgence sanitaire au 10 juillet, votée hier soir par les députés en première lecture. Le texte permet toutefois de conserver des restrictions jusqu'au 30 octobre sur les rassemblements ou l'accueil du public, par exemple, dans les magasins.
L'opposition s'alarme d'un état d'urgence prolongé qui ne dit pas son nom. Examen au Sénat dès lundi.
Air France pourrait supprimer 8 à 10 000 postes, 15 à 20% des effectifs, selon le journal Les Échos, conséquences de la crise sanitaire. Chiffre que ne confirme pas pour l'heure la direction des départs sur la base du volontariat.
Stupéfaction des syndicats qui n'acceptent pas ces suppressions alors que la compagnie bénéficie d'un prêt garanti par l'État de 7 milliards d'euros au total. Vincent Salle, délégué CGT.
On considère que c'est proprement scandaleux que l'argent public donné par l'État à une entreprise comme Air France ne soit pas conditionné à du maintien de l'emploi, à du social, et que ces 7 milliards des contribuables et des citoyens français, finalement, servent à alimenter les chiffres du chômage. Voilà, on n'accepte pas ça. La direction, par un effet d'aubaine de cette crise, et puis le fait aussi pour s'aligner avec les compagnies aériennes concurrentes qui dilapident dans la masse salariale, bon, profite pour faire les restructurations et s'aligner. Mais le problème, c'est que la question qu'on va se poser, c'est est-ce que les 7 milliards qui ont été accordés à France doivent servir à supprimer des emplois ou à les maintenir. Nous, on pense qu'ils doivent servir à les maintenir.
Vincent Salle, délégué CGT Air France, joint pour Europe 1 par Justin Morin.
Europe 1.
Dans un tout petit instant, la suite du journal et l'émotion de la petite ville de Grande-Bretagne où habitent les parents de la petite Maddy, disparue il y a 13 ans au Portugal.
Émotion après qu'hier, les enquêteurs allemands ont affirmé disposer de preuves de la mort de la fillette.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, il est 6h10, le journal se poursuit. Mathieu Béliard, Jérôme Lacroix.
L'un des faits divers les plus mystérieux de ces dernières années est-il proche du dénouement? Maddy McCann, 3 ans et demi, mystérieusement disparu en 2007 au Portugal. Des policiers en Allemagne, où l'enquête a récemment rebondi, affirment disposer des preuves de la mort de la petite Britannique. Ces enquêteurs tiennent un suspect, un pédophile multirécidiviste déjà incarcéré pour une autre affaire.
Et face à ce possible épilogue dramatique, vague d'émotion, à Rothley, dans le centre de l'Angleterre, la petite ville où Maddy a grandi, Johanna Chabas.
Dans ce village très tranquille de moins de 4000 habitants, tout le monde connaît Maddy et sa famille. Les habitants l'ont vu grandir, ses parents vivent toujours dans la région. Alors selon les Swapson commerçantes, cette annonce fait énormément de peine à toute la communauté.
Ça nous rend vraiment tristes. On avait l'espoir de la retrouver en vie. Ce serait bien d'en finir avec cette affaire. On espère maintenant connaître la vérité.
Mais après 13 ans d'enquête, de fausses pistes, les habitants de Worfley restent prudents. Il leur en faut plus pour penser que c'est la fin de l'affaire.
Si le gars qu'ils ont en détention là dit qu'il l'a fait, alors moi je lui dis montre-moi, où est-elle? Où est son corps?
Je voudrais des preuves avant de complètement l'accepter. Si j'étais ses parents, je voudrais pouvoir enterrer ma fille, voir son corps pour en être certain.
Les habitants attendent en fait que les autorités britanniques se prononcent sur les annonces allemandes et les confirment. C'est seulement après qu'ils accepteront les preuves de la mort de la petite fille.
Donald Trump aurait demandé au président de la Chine de l'aider à se faire réélire en novembre prochain. C'est en tout cas ce qu'affirme John Bolton, ex-conseiller à la sécurité nationale, figure de la politique américaine. Il écrit dans un livre brûlant, apparaîtra très bientôt.
Europe 1, il est 6h12.
Rendez-vous en août à Lisbonne pour le point d'orgue d'une saison de foot bien particulière.
L'épilogue de la Ligue des Champions, la grande Coupe d'Europe, ce sera du 12 au 23 août. L'UEFA a acté hier le calendrier après l'arrêt des matchs en raison de la pandémie, bien sûr. Les 8 meilleures équipes, parmi lesquelles le Paris Saint-Germain et peut-être Lyon, se retrouveront dans un tournoi final qui s'annonce spectaculaire, Cyril de la Morinerie.
Fini les matchs aller-retour. 8 équipes s'affronteront lors de rencontres à élimination directe à partir du 12 août, dès les quarts de finale, jusqu'à la finale prévue le 23 août. Un mini-tournoi qui se déroulera à Lisbonne. La capitale portugaise a été choisie car jusque-là relativement épargnée par la pandémie de Covid-19. La présence ou non du public dépendra de l'évolution du contexte sanitaire. Pour le moment, 4 équipes sont d'ores et déjà assurées de participer à cette phase finale, dont le PSG. Le tirage au sort de ce mini-tournoi aura lieu le 10 juillet. Quant à Lyon, le club de Jean-Michel Aulas doit encore éliminer la Juventus de Turin pour rejoindre Lisbonne. Après la victoire à l'aller 1-0, il reste à disputer le match retour de ses huitièmes de finale le 7 ou 8 août prochain à Turin ou au Portugal.
Et puis à propos de foot, cette image en Angleterre, les footballeurs en genou à terre en soutien au mouvement mondial Black Lives Matter contre le racisme, c'est ce qu'on fait. Les joueurs, avant les coups d'envoi des 2 matchs hier qui marquaient leur retour du championnat outre-Manche après 100 jours d'interruption. Les résultats, Aston Villa Sheffield 0-0 et Manchester City a battu Arsenal 3-0.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, c'était le journal de 6h. Il est 6h13 sur Europe 1.
Europe 1. À suivre dans la matinale d'Europe 1, votre invité Mathieu Béliard.
Okay, on parlait de la Ligue des Champions à l'instant. Et s'il y avait une Star Academy du foot, c'est l'idée de l'ancien professionnel Tony Vérel, mon invité inattendu dans un instant.
Il est 6h15, c'est l'heure de l'invité inattendu tous les matins, un sujet de l'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler.
Et les amateurs de foot se languissent depuis 3 mois. On a repris en Allemagne, en Angleterre. Pour la France, il faudra patienter encore, vous le savez. Ce matin, vous l'avez entendu avec Jérôme Lacroix, on en sait plus sur la Ligue des Champions qui va reprendre dans une formule originale une semaine de folie, une dizaine de jours de folie au mois d'août, avec les quarts de finale, les demi-finales, la finale, le tout à Lisbonne, mini-tournoi en fait, une formule réduite, inédite. Voilà pour les dernières infos. En attendant, on va changer d'ambiance ce matin. Le générique de la Starac ce matin, oui, car mon invité inattendu a eu cette idée un peu folle de créer une télé-réalité sur le foot, une Star Academy du football.
Avec un contrat pro à la clé, ce matin, votre invité inattendu, Mathieu Béliard, c'est l'ancienne star du RC Lens. En direct ce matin, le footballeur Tony Vérel.
Du RC Lens notamment. Bonjour Tony Vérel.
Bonjour à tous.
Quel plaisir de vous parler ce matin et de parler de cette idée, un concours de footballeurs avec un contrat pro à la clé. On imagine très bien la télé-réalité, ça s'y prête bien. Vous allez sélectionner des joueurs sur une vidéo de présentation qu'ils vont vous envoyer, c'est ça ?
C'est un peu ça, en fait. Il y aura un pré-casting et bien sûr, où tout le monde aura sa chance. Vous pourrez envoyer une vidéo de ce que vous êtes capable de faire sur un terrain et une vidéo de présentation. Et après ça, nous ferons un pré-casting. Et moi, ce que j'aimerais aussi, c'est qu'il y ait une partie aussi qui soit faite sur tirage au sort pour que vraiment personne ne soit lésé et que tout le monde puisse avoir sa chance.
Ah oui, j'aurais peut-être une chance sur un tirage au sort, Tony Vérel. Alors vous allez sélectionner 18 joueurs majeurs. J'ai vu qu'il n'y avait pas de limite d'âge. 18 joueurs majeurs. Ensuite, comment ça va se passer ? Il y aura un match amical pour chaque semaine et ils devront se qualifier pour ce match en fait.
Oui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une énorme présélection sur 4 jours. Où les joueurs viendront, il y aura déjà une sélection de joueurs amateurs. Et après, il y aura des joueurs semi-pro, enfin des joueurs qui viennent de National 1, 2 et 3, qui seront confrontés aux amateurs. Donc, et à l'issue de ces 4 jours de test, il y aura une sélection de 18 joueurs qui se retrouveront dans un centre de formation. Et on les préparera physiquement comme un stage d'avant-saison, professionnel. Et il y aura des matchs amicaux où, à l'issue de ces matchs amicaux, il y aura des éliminés, exactement comme dans les télécrochets qu'on a pu voir à la télé. Quoi.
Et avec des guest stars qui pourraient sauver des joueurs, qui pourraient se voir éliminés. Enfin, on a tout le scénario là d'une télé-réalité, la Starac, Koh-Lanta par exemple. Mais vous, ce que vous avez voulu montrer aussi, c'est la réalité de la formation de ces jeunes athlètes, les sacrifices, l'envers du décor.
Exactement, vous avez tout réuni, enfin, vous avez tout. Vous en avez dit énormément, d'ailleurs un peu trop, il n'y a plus de suspense après tout ça.
Si, vous savez ce que vous allez nous raconter aussi ce matin, Tony Vérel, c'est le jury. Le jury qui va accompagner ces joueurs, qui va les coacher pendant cette télé-réalité. Est-ce que vous pouvez nous révéler les noms? Ça va rappeler quelques souvenirs à nos auditeurs.
C'est ça, en fait, oui, j'étais heureux d'avoir rencontré tous ces gens et de leur demander cet énorme service de me suivre sur ce projet. Et ils ont accepté vraiment avec grand plaisir. Alors déjà, le premier, c'est Olivier Rouillet. C'est tout un symbole parce que c'est lui qui m'a donné ma chance en première division un 25 janvier 92. Donc vraiment...
Ah, je ne savais pas. Autant, évidemment, je connais Olivier Rouillet comme tous les fans de foot. Je ne savais pas que c'est lui qui vous avait lancé, finalement.
Si, effectivement, c'est lui... Qui m'a donné ma chance. Et pour la petite anecdote, un an avant, j'étais pas en centre de formation à Nancy et il m'avait dit, écoute Tony, tu devrais peut-être penser à autre chose que le football parce que tu n'es pas encore au centre de formation. Voilà. Et ça m'avait donné tellement une rage de vaincre à ce moment-là. Que voilà, un an après, c'est lui qui me donnait ma chance. Comme quoi, c'est quelqu'un de très intelligent et qui ne reste pas sur des a priori. Et quand il a vu que j'étais peut-être capable de me.
Quel hommage.
C'était vraiment super. Et puis, qu'il fasse partie du jury, c'est génial. Et bien sûr, des personnalités que j'adore, comme Marius Trésor, Pascal Olmeta, Steve Savidan, qui a toute une histoire aussi dans le football.
Je trouve
que c'est vraiment génial.
Mais non, pour le coup, déjà, le casting du jury, ça promet. En tout cas, quand on a aussi regardé, en plus du foot, la nouvelle star, la Starac, etc., ce jury va devoir se prononcer sur ces jeunes joueurs. Et ensuite, à la clé, il y a un contrat pro. Alors, aujourd'hui, j'ai cru voir que tout était prêt pour vous, Tony Vérel. Il manque juste une chose, c'est un diffuseur du programme.
C'est ça, exactement. En fait, au départ, l'aventure était encore plus belle puisque j'avais le diffuseur. Et malheureusement, le patron de cette chaîne a changé. Enfin, il est parti pour de plus belles aventures, et tant mieux pour lui. Mais ce qui fait que voilà, le successeur n'a pas suivi l'aventure. Donc voilà, c'est comme ça aujourd'hui.
Du coup, c'est un appel que vous lancez. Hein. Il y a des diffuseurs, il y a des chaînes qui diffusent du foot, ou même certaines qui voudraient avoir du foot sans avoir les droits, qui pourraient diffuser ce genre de programme. Et ensuite, à la clé, un contrat pro. Donc, contrat pro, c'est un club de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui déjà vous dit, Tony Vérel, c'est OK, j'embaucherai le gagnant.
Exactement. Un club me fait confiance pour justement trouver un joueur qui pourrait convenir à son effectif et qui croit vraiment à la crédibilité de cette émission aussi. Parce que au-delà, vous disiez une chaîne de foot, mais ça peut être une chaîne qui ne soit pas non plus sportive, parce qu'on a essayé de construire justement cette émission pour qu'elle soit le plus attractive possible et qu'elle divertisse un maximum de monde. C'est pour ça qu'on fait venir des guests. C'est pour ça que derrière, on va aller dans l'intimité du football, ce qu'on ne voit pas tous les jours, et la somme de travail aussi qu'il faut pour devenir professionnel. On ne devient pas professionnel en un claquement de doigts. Les joueurs qu'on va sélectionner seront des joueurs qui ont déjà été formés dans des centres de formation. Et puis, pourquoi pas peut-être trouver l'inédit, quelqu'un qui n'est jamais passé dans les centres de formation, peut-être qui n'a jamais eu de licence.
Tony Vérel, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous croyez qu'en France aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui jouent au foot, est-ce que vous croyez qu'en France, on est passé à côté d'une nouvelle star du foot, d'un nouveau talent, quel que soit son poste, et que ce genre de programme peut permettre de finalement retrouver ce qui serait passé entre les mailles du filet?
C'est exactement ça, en fait. Passer entre les mailles du filet, parce qu'on a vraiment de bons centres de formation. On a une fédération qui fait un travail énorme pour justement essayer de ratisser un maximum et ne laisser passer personne entre les mailles. Mais il y en a toujours, pour X raisons. Vous savez, quand on a 15-16 ans, quelquefois, il peut arriver qu'on a envie un peu d'autre chose, de sortir, de faire des choses différentes, ou même une peine de cœur, une perte dans la famille,
qui nous perturbe.
Voilà. Et on sort du système. Et le problème, quand on sort du système, il est très difficile d'y re-rentrer parce qu'il y a tellement de prétendants que tout est bouché. Et ce programme pourrait permettre à certains qui aujourd'hui sont hyper performants mais n'ont pas la visibilité qu'ils devraient. Quoi.
J'adore. Pour le coup, Tony Vérel, un dernier mot. Le nom du programme ?
Alors pour l'instant, il s'appelle Ultime Chance. Ultime Chance TV comme Tony Vérel ou comme télévision. Et voilà, j'ai pensé à ça parce que c'est pas une dernière chance, c'est pas une seconde chance. Pour certains, c'est la première. Donc c'est quelque chose pour moi d'ultime, ce programme. Donc voilà, Ultime Chance.
Merci beaucoup Tony Vérel. Juste sur le club professionnel, vous restez discret, je le précise pour nos auditeurs, vous restez discret sur le club professionnel qui s'engage à accueillir le gagnant, en l'occurrence en attendant de trouver un diffuseur. J'espère qu'on aura l'occasion de s'en reparler, Tony Vérel. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
L'invité inattendu d'Europe 1 ce matin, il est 6h24.
Europe 1. Le meilleur et le pire des réseaux sociaux à suivre avec Paul Lassen, ou devrais-je dire le meilleur et le pire des commentaires sur la finale de Top Chef. À tout de suite. Il est 6h26, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard.
Et tous les jours, nous retrouvons Paul Lassen, le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Bonjour Paul.
Bonjour Mathieu.
Hier soir avait lieu un événement important qui a déchaîné les réseaux sociaux.
Oui, hier soir, c'était la finale du concours de cuisine le plus suivi de France, Top Chef.
Du monde.
Oui, du monde, allez-y. Deux challengers. D'un côté, David, chef déjà étoilé avant le début du concours. Et de l'autre, le favori, le chouchou des internautes, Adrien. Qu'on soit bien d'accord, ce soir, c'est la victoire d'Adrien. Je ne veux rien savoir, écrit cet internaute. C'est la finale de Top Chef. Qui soutenez-vous et pourquoi Adrien, demande ironiquement Arthur. Véritable messie sur les réseaux sociaux, certains y voient plus qu'un simple cuisinier. Claude qui tombe des poteaux à Koh-Lanta, le Covid, la bagarre entre dealers et tchétchènes, George Floyd et j'en passe, c'est le seul homme qui peut sauver 2020.
Rien que ça.
Alors pourquoi Adrien est-il adoré, son côté perché, diront certains, surtout pour son originalité dans un concours plutôt traditionnel. Par exemple, quand on lui demande le plat à partager avec ses amis.
Gros kebab bien sale.
Oui, d'accord, du coup c'était gros kebab au programme de la finale.
Non, quand même pas. Au programme de l'épreuve pour David.
L'entrée, on est sur un ravioli à l'encre de sèche. Ensuite, le plat, on est sur côtelé saveur d'Orient. Et le dessert, un sablé au beurre avec mangue, coco et chou-fleur.
Et pour Adrien.
Sur l'entrée,
je vais visiter la crevette cocktail.
Le plat, ça va être un pressé de veau avec une raviole champignon de Paris et comté.
Mon dessert, ça va être
un gobelet en sucre.
Voilà, aujourd'hui, c'est le jour que tout le monde attend depuis 18 semaines qui peut changer ma vie. Je fais donc des gobelets en plastique en sucre. Gros succès pour la tentative d'Adrien. À l'inverse, le dessert de David, qu'il a déjà réalisé pendant la compétition, n'est pas digéré par les internautes. Donc non seulement il refait un dessert qu'il a déjà fait, mais en plus il le simplifie. Allez où l'audace, bordel, s'emporte Chloé. Autre point de tension pour les internautes, l'aide apportée par ses coachs à David. Il rate l'assaisonnement de l'entrée, du plat, recycle un dessert en discount. S'il gagne, c'est un hold-up scandaleux. Alors qu'Adrien, lui, n'en fait qu'à sa tête. J'entends ce que me dit mon chef, mais flemme en plus, j'ai pas de papier toilette en cuisine pour m'essuyer, donc je vais le faire avec son avis, se moque un internaute.
10 heures d'épreuve pour les candidats. Et enfin, le nom du gagnant, bouchez-vous les oreilles, hein, si vous ne voulez pas qu'on divulgue le replay de The Top Chef.
Oui, après 4h50 d'émission et 15 coupures pub, arrive enfin la fameuse cérémonie des couteaux, mais Covid oblige, chacun chez soi. Et ce cri de joie, c'est celui de David qui remporte la compétition. Alors, je vais pas vous mentir, sur les réseaux sociaux, on n'était pas contents. Bon, on va dormir en se consolant, en voyant que le vainqueur a une victoire vraiment pourrie, écrit un internaute. D'autres préfèrent crier leur peine. Adrien, bon joueur, lui, sait déjà comment il va se réconforter.
Menu Maxi Best of Big Mac, 6 nuggets et un soupe de caramel.
Avant le gros kebab, comment il disait, un gros kebab avec les potes. Voilà. Merci beaucoup.
Merci
Paul
Lassen,
le meilleur et le pire des réseaux sociaux. Pour ceux qui, à 6h30 du matin, évidemment, que beaucoup d'entre vous ont manqué la finale de Top Chef, ça finit trop tard maintenant, Top Chef. 6h29, pardonnez-moi, j'ai éteint mon micro accidentellement. Laurent Cabrol est avec nous, c'est l'heure de la météo.
L'été approche. Allez, nous allons quitter les sanglots longs des violons de l'automne pour en arriver à cette saison qui nous est chère, l'été, c'est-à-dire samedi. Samedi, les températures commenceront à grimper, mais il faut vraiment faire preuve de patience. Notre temps n'est pas aussi rapide que cela. Et vous allez voir, chers amis, que bon, allez, aujourd'hui et demain, ce sera encore un petit peu nuageux. Même aujourd'hui, pas mal nuageux sur une grande partie de la France, une grande partie ouest, avec de belles chances d'éclaircies pour les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, le Dijonais, la vallée du Rhône, le bassin méditerranéen et des éclaircies plus timides sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées et l'Île-de-France. Partout ailleurs, les nuages, les orages seront toujours là avec quelques averses. Les températures aujourd'hui entre 19 et 27 degrés. Je vous disais, demain, il y a encore un petit peu moins d'intempéries, même pratiquement plus. Et samedi, dimanche, lundi, ce sera vraiment la journée charnière, les journées charnières avant mardi, là où vraiment ce sera l'été avec la forte chaleur, jusqu'à 30 degrés sur la plupart des villes.
Merci beaucoup Laurent Cabrol. François Geffrier est avec nous. Bonjour François.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 6h30.
Il n'est pas De Gaulle qui veut. Le pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. Ce que j'apprécie moins, c'est quand on fait de cet héritage un moment pour se racheter une virginité.
Le pauvre général, plus populaire que jamais, 80 ans après l'appel du 18 juin, Charles De Gaulle. Une référence politique indémodable à droite comme à gauche. Manger sans s'empoisonner, le titre choc du magazine 60 millions de consommateurs aujourd'hui. Nos conseils dans un instant ultra simple pour lire les étiquettes et les interpréter. Et puis Roland-Garros, le tournoi de tennis de Grand Chelem parisien, ce sera bien fin septembre, début octobre. Et si tout va bien, il y aura du public en tribune.
Question de droit et réponse de Roland Pérez. Juste après ce journal, la reconnaissance du Covid-19 comme maladie professionnelle. Qui est concerné? À 6h40, les 80 ans de l'appel du 18 juin. À nouveau, avec ce document européen, l'ancien résistant et déporté Yves Meyer témoigne dans moins de 10 minutes sur Europe 1. Puis nous vous emmenons au Kenya, en Inde et en Pologne. C'est la revue de presse internationale avant 7h.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
À ce niveau-là, ce n'est presque plus de la nourriture, mais un produit d'usine. Les aliments ultra transformés sont à la une du magazine 60 millions de consommateurs qui alertent sur leur danger potentiel pour notre santé.
Risque de cancer, de maladies cardiovasculaires pour des produits qui représentent aujourd'hui plus d'un tiers des calories que nous mangeons. Pour Europe 1, Ève Roger va nous aider à mieux déchiffrer les étiquettes.
Alerte au rayon petit-déjeuner. 90% des produits qu'on y trouve sont des aliments ultra transformés, viennoiseries, céréales ou pâtes à tartiner. Et pour en être sûr, il suffit de lire la liste des ingrédients si vous y trouvez des composés qui n'existent pas dans les placards de votre cuisine. Graisse hydrogénée ou amidon modifié par exemple, banco, c'en est un. Deuxième indice, la taille de l'étiquette. Plus il y a d'ingrédients, de préférence au nom obscur, et plus le risque est là. Une barre chocolatée avec plus de 5 composants est un aliment ultra transformé. Autre exemple cité par 60 millions de consommateurs, le fromage à tartiner Le Paysan Breton, dont la recette ne contient que du lait et du sel de Guérande, vaut mieux que le Kiri qui compte 9 composants, dont un gélifiant et des sels de fonte. Enfin, ce n'est pas écrit sur l'étiquette, mais le procédé de fabrication industrielle est aussi un marqueur. L'aliment ultra transformé est souvent craquant, croustillant, comme les chips, certaines pizzas ou céréales.
Europe 1, il est 6h32.
C'était il y a 80 ans et c'était à la radio l'appel du général de Gaulle le 18 juin 1940.
Réfugié à Londres, il appelait ceux qu'il pouvait à le rejoindre pour lancer un mouvement de résistance à l'Allemagne nazie. Des cérémonies auront lieu aujourd'hui. Alors il y a le protocole, les drapeaux, la Marseillaise, mais il y a aussi, on va l'entendre avec Jean-Gabriel Bourgeois, dans presque chaque parti politique aujourd'hui, une partie de l'héritage du général qui est captée.
Comme Jeanne d'Arc n'appartient à personne, l'héritage du général de Gaulle n'appartient à personne.
Au Rassemblement national, on revendique une continuité avec les idées du général de Gaulle. Son porte-parole, Sébastien Chenu.
Sur l'indépendance de la France, la nécessaire unité des Français au-delà de la droite et de la gauche, sur la vision de la place de la France dans le monde, sur tous ces sujets-là, nous avons des points de connexion très forts avec le discours du général de Gaulle.
Récupération politique fustige la droite. Damien Abad dirige le groupe LR à l'Assemblée.
Il n'est pas De Gaulle qui veut. Le pauvre général, il doit se retourner dans sa tombe. Ce que j'apprécie moins, c'est quand on fait de cet héritage un moment pour se racheter une virginité.
Les Républicains fêteront sobrement cette journée. Seul un portrait de Charles de Gaulle recouvre la façade du siège à Paris. La droite qui a perdu le monopole de l'héritage gaulliste. Emmanuel Macron, lui, célébrera l'anniversaire du 18 juin au Mont Valérien, puis à Londres avec une cérémonie. Un proche du président l'affirme, il s'est toujours référé à la figure du général, une valeur d'exemple pour réformer le pays.
La suite des auditions de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise sanitaire. Ce matin, c'est le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, qui sera interrogé par les députés. Hier, un nouveau protocole sanitaire plus léger a été publié par le ministère de l'Éducation nationale pour le retour en classe théorique de tous les élèves lundi.
À Toulouse, le versement de la prime Covid fait débat. Le CHU a choisi de verser un montant de 1500 euros à 5 de ses directeurs.
Dans cet hôpital, 6 soignants sur 10 ne toucheront, eux, que la prime réduite, celle de 500 euros, d'où la colère des syndicats de l'hôpital que l'on va entendre et qui sont interrogés par Benjamin Péter.
Sachant qu'il n'y avait pas assez d'argent pour tout le monde, de privilégier les plus hauts salaires dans les administratifs, c'est absolument scandaleux.
Parce que si dans les départements qui ont été un moment ou un autre en zone rouge, tout le monde va toucher 1500 euros, ici en zone verte, seuls 40% des personnels peuvent toucher ce montant selon le décret. Les autres n'auront que 500 euros. Il a donc fallu faire des choix. Mais Julien Terrier de la CGT n'imaginait pas que ces gros salaires en bénéficient.
La question financière, elle est hyper sensible ici. On a des collègues qui ont des découvertes tous les mois, qui dorment dans leur bagnole. C'est indécent.
Mais Marc Penaud, le directeur général, assume. Pour lui, ces 5 cadres ne représentent que 0,1% de ceux qui toucheront 1500 euros, des directeurs qui ont particulièrement mouillé la chemise.
Les personnes qui sont distinguées ont été extrêmement disponibles, nuit et jour, tous les week-ends. C'est un travail énorme que de transformer un hôpital en un hôpital capable de multiplier par 2 son activité de réanimation dédiée au Covid et de créer des unités Covid.
Et il a d'ailleurs rédigé un courrier que les salariés recevront avec leur feuille de paye du mois de juin pour expliquer les arbitrages et les critères qui ont été pris en compte. Toulouse, Benjamin Péter, Europe 1.
L'actualité aux États-Unis avec l'apparition dans la presse d'extraits d'un livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. John Bolton accuse le patron de la Maison-Blanche d'avoir demandé à la Chine d'importer plus de blé et plus de soja américain, et ce dans le but de favoriser sa réélection. La réaction ce matin de Joe Biden, candidat démocrate à la présidentielle. Le président Trump, dit-il, a vendu les Américains pour protéger son avenir politique.
Le tournoi de Roland-Garros se tiendra du 27 septembre au 11 octobre.
Un tournoi parisien qui n'est pas envisagé à huis clos comme l'US Open le 31 août. Alors pour le moment, aucune jauge pour le public n'est annoncée, mais la billetterie devrait être lancée à la fin du mois ou au début du mois de juillet. On écoute le directeur de Roland-Garros, Guy Forget.
Les choses vont plutôt dans le bon sens, nous sommes optimistes. Si jamais il se passe des choses un petit peu plus délicates, on avisera, tout comme pour l'option du huis clos. Je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas une option que nous privilégions, bien entendu, ni pour les fans, ni pour les joueurs. Voilà, mais on ne sait pas ce qui va se passer d'ici là. Donc voilà, on est optimiste, mais on reste prudent. On a aujourd'hui la particularité d'avoir 75 joueurs du top 100 qui sont européens. La plupart d'entre eux sont en Europe en ce moment. On sait qu'ils veulent jouer sur terre battue. Bien sûr, Roland-Garros et les deux tournois très importants qui vont se dérouler avant notre tournoi. Donc, c'est chouette d'avoir pris cette date pour justement sauver notre saison sur terre battue. Et aujourd'hui, je sais que l'ensemble des joueurs européens, en particulier français, sont très séduits à l'idée de jouer justement notre tournoi à cette époque de l'année sur terre battue.
Guy Forget, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou.
Merci François Geffrier. C'était le journal de 6h30 sur Europe 1. Très bon réveil à tous.
Vos questions de droit trouvent leur réponse avec l'expert juridique d'Europe 1, Roland Pérez.
Bonjour Roland.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, le 23 mars 2020, déclarait « Aux soignants qui tombent malades, je le dis, le coronavirus sera systématiquement et automatiquement reconnu comme une maladie professionnelle. Et c'est la moindre des choses, il n'y a aucun débat là-dessus. » Et donc Roland, le décret prévoyant cette reconnaissance devrait arriver dans les prochains jours. Expliquez-nous les conséquences d'une telle mesure.
Oui Mathieu, alors le secrétaire d'État chargé de la protection de la santé des salariés face à l'épidémie du Covid-19 auprès de la ministre du Travail, Lioran Petrasevski, a évoqué plusieurs professions touchées de plein fouet par le Covid, et pas seulement d'ailleurs les soignants qui, on le sait, ont été les premiers affectés à l'origine par le virus dans l'exercice de leurs fonctions. Les syndicats de nombreux corps de métiers s'étaient mobilisés pour que cette maladie professionnelle soit reconnue comme telle par plusieurs emplois qui ne se sont pas arrêtés pendant le confinement imposé. Et même l'Académie de médecine s'était dite favorable à ce que cette reconnaissance ne bénéficie pas qu'au seul personnel de santé, mais aussi à ceux qui ont concouru au fonctionnement indispensable du pays dans les secteurs de l'alimentation, des transports et de la sécurité. On pense notamment, Mathieu, aux forces de l'ordre, aux caissiers des supermarchés, pompiers, postiers, agents de maintenance. Et il y aurait, Mathieu, ainsi plusieurs décrets qui devraient voir le jour pour chacune des professions rappelées, permettant ainsi à ce que le Covid-19 soit inscrit dans la liste des maladies professionnelles annexée au code de la sécurité sociale. Alors, une maladie est considérée comme professionnelle si elle est la conséquence directe de l'exposition plus ou moins prolongée d'un travailleur à un risque physique, chimique ou biologique, ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle. En ce cas, le salarié n'aura pas besoin de prouver le lien entre sa pathologie et son travail.
Et Roland, quelles sont les conséquences de la reconnaissance en maladie professionnelle ?
Alors, la reconnaissance d'une maladie professionnelle déclenche une protection sociale renforcée. Elle permet une prise en charge à 100% des frais médicaux et la perception d'une indemnité en cas d'incapacité temporaire ou permanente. En cas de décès, hélas, les ayants droit peuvent également percevoir une rente qui peut aller jusqu'à 85% du salaire annuel de la victime s'il y a plusieurs ayants droit.
Merci Roland Pérez. Tous les matins, une question de droit et la réponse de notre expert Roland Pérez juste après le journal de 6h30 sur Europe 1, bien sûr.
Europe 1. Jusqu'à 9h, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard.
À la une ce matin, un anniversaire. Les 80 ans de l'appel du général de Gaulle. Anniversaire qui arrive dans une période où la France tente à se diviser. Que reste-t-il, tiens, de cet appel du 18 juin aujourd'hui? Dans vos souvenirs, souvenirs familiaux, hein, souvent. Que reste-t-il du gaullisme aussi? Ça veut dire quoi pour vous être gaulliste en 2020? Appelez-nous au 3921 pour témoigner, pour échanger avec l'historien Jean Descartes à 8h30 tout à l'heure. Mais à suivre sur Europe 1, un document. La parole d'un ancien résistant qui a entendu l'appel du général le 18 juin 40. Yves Meyer a 96 ans aujourd'hui. Son témoignage sur Europe 1, c'est dans une minute.
Europe 1, il est 6h42, Mathieu Béliard.
À l'occasion des 80 ans de l'appel du général de Gaulle, ce matin, un document exceptionnel. Yves Meyer, il avait 16 ans le 18 juin 40, lorsqu'il a entendu l'appel du général qui, au lendemain du discours de Pétain, appelle depuis Londres à la poursuite des combats. Yves Meyer, c'est immédiatement engagé dans la résistance française. Aujourd'hui, il est âgé de 96 ans. Lord d'Autriche l'a rencontré chez lui, à Paris.
Mon souvenir est évidemment vague 80 ans après, mais je me trouvais à ce moment-là avec ma famille à Palavas-les-Flots, près de Montpellier. Le discours du général de Gaulle, je crois me souvenir qu'on était à l'hôtel et qu'on l'a entendu à l'hôtel. Mais bon, c'était un discours parmi tant d'autres, parce qu'il y en avait, il y avait des discours de tous les côtés à ce moment-là. Il y avait Pétain, il y avait... Bon, on a trouvé très bien qu'il y ait quelqu'un qui veuille que la France continue. Il fallait résister, il fallait continuer à se battre. Moi, je ne comprenais pas qu'on arrête les hostilités. Il fallait partir en Afrique du Nord, c'était ce que je pensais, ce que ma famille pensait également.
Et le général de Gaulle, ce nom-là, ça vous dit quelque chose à l'époque ?
Non. À l'époque, c'était un général, bon, mais il y en avait des quantités de généraux. Ça n'avait aucune signification. Ce qui comptait, c'était Winston Churchill. Moi, je n'aspirais qu'à une chose, c'était à rentrer dans l'aviation à ce moment-là. Je voulais être pilote, mais si vous voulez, à mon âge, personne ne voulait de moi. Je n'avais pas de formation militaire. Mon père était trop vieux, lui, pour reprendre les armes. Enfin, c'était un ancien combattant de 14-18. Et alors après Palavas-les-Flots, on a rejoint Marseille, où j'ai retrouvé mon entreprise et où j'ai été réengagé après avoir été licencié à Bordeaux.
Et vous entrez immédiatement ensuite dans la résistance. Ça se fait comment pour vous ?
Alors, j'ai signé un engagement aux Forces françaises libres avec au réseau Julit. On m'a demandé de signer un engagement pour la durée de la guerre, plus 3 mois, ce que j'ai fait très volontiers. Mais il fallait aussi jurer fidélité à De Gaulle. Ça, j'ai refusé de le faire. Parce que je ne voulais pas jurer fidélité à un homme, pas plus à De Gaulle qu'à Pétain, si vous voulez. J'étais en relation avec le mouvement Combat. On a, à l'époque, si vous voulez, il y avait les actualités allemandes qui étaient diffusées entre les films au cinéma. Et ces actualités, on sifflait, enfin, etc. On allait voler aussi les cachets à la préfecture de Marseille. On volait les cachets pour faire défaut. J'ai organisé un maquis en Savoie, près de Saint-Jean-de-Maurienne, et j'ai monté un maquis, pas tout seul, mais avec l'aide d'abord des gens du village, et puis quelques dirigeants qui m'ont donné les moyens de le faire. Et on a monté un maquis où il y avait à l'origine personne et où les gens sont arrivés au fur et à mesure. Et il y avait de tout dans ce maquis. Il y avait des cuisiniers, il y avait des artistes, il y avait des croupiers. Enfin, c'était vraiment un monde très mélangé. Et j'ai réussi à unifier ça. Mais ça, c'est la formation scout qui m'a permis de le faire.
Alors vous serez arrêté plusieurs fois pendant ces années de résistance, vous réussirez à vous évader à Perpignan, à Grenoble. Et en 1944, vous êtes dénoncé par un agent double qui avait infiltré votre réseau de résistance.
Exactement. C'était un Alsacien lorrain qui parlait évidemment très bien l'allemand et qui parlait très bien le français, et qui était rentré au service de la Gestapo. Je circulais avec lui parce que moi, je n'avais pas de moyen de transport à l'époque sur place, à part quelques motos qu'on me prêtait ou autre. Mais je circulais dans la voiture de la Gestapo sans savoir que c'était la Gestapo. Et on avait un rendez-vous à Rouen sur une certaine place. Et là, ils ont fait les arrestations. Et moi, je me suis, à ce moment-là, j'ai couru quand j'ai senti qu'il y avait l'arrestation. Je me suis sauvé par les petites rues et il y a un Allemand qui m'a rattrapé, qui a ouvert le feu avec sa mitraillette presque à bout portant. J'ai eu le veston traversé et pas une égratignure. Ah oui, c'est la chance.
Et vous êtes ensuite déporté le 2 juillet 1944 dans le camp de concentration de Dachau.
On est parti à, je crois, 2005, on est arrivé à... Enfin, il y avait 900 morts, quoi, c'était horrible. Alors, là encore, la chance, j'étais dans un wagon où on avait un projet d'évasion, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de résistants, et dans ce wagon a régné une certaine discipline, parce qu'il n'était pas possible de s'asseoir à 100 dans le wagon. Il fallait qu'il y ait la moitié qui reste debout pendant que l'autre s'asseyait. Et les wagons, certains wagons, les gens sont devenus fous, sont battus pour accéder aux fenêtres. Et il y a eu un wagon où il y avait 99 morts, c'est-à-dire un survivant.
Après quelques semaines passées à Dachau, vous êtes transféré dans des camps de travail avant d'être libéré par les Américains en avril 1945. Et à votre retour, vous êtes resté fidèle à De Gaulle.
Je trouve qu'on a eu la chance d'avoir De Gaulle. Qu'il ait eu ce caractère pour résister à tout ce à quoi il a résisté, c'est extraordinaire. Hein. Il a fallu qu'il ait un moral d'acier, parce qu'il devait être découragé par moments quand il avait tout le monde contre lui. C'est un homme étonnant. J'étais après un fidèle gaulliste, oui. J'ai jamais voulu faire de politique. On m'a proposé de faire de la politique, mais ça, non, c'était pas mon job.
Témoignage ce matin, document Europe 1 de l'Ordre d'Autriche qui a recueilli justement le témoignage d'Yves Meyer ce matin, le 18 juin 1940, ce moment d'histoire sur lequel nous revenons ce matin, avec vous également à 8h30. Que reste-t-il aujourd'hui de cet appel du général de Gaulle? Appelez-nous au 3921, venez partager vos souvenirs, vos mémoires. Elles peuvent être d'engagement, elles peuvent être mémoire politique aussi. C'est quoi être gaulliste aujourd'hui en 2020? On va en parler avec l'historien Jean Descartes et avec vous au 3921.
Europe 1 présent sur tous les continents avec notre réseau de correspondants. Qu'est-ce qui fait la une à l'étranger?
Le Kenya, l'Inde et la Pologne au programme. À tout de suite.
À 6h51, vous écoutez Mathieu Béliard et c'est la revue de presse internationale sur Europe 1.
C'est notre réseau de correspondants en fait, sur tous les continents et tous les matins on vous donne à écouter l'information telle qu'elle est vécue à l'étranger. Nous démarrons en Inde ce matin avec Côme Bastin. Bonjour Côme.
Bonjour Mathieu.
Qu'est-ce qui fait la une chez vous?
La colère et l'inquiétude après que la Chine et l'Inde se sont mortellement affrontés lundi le long de leurs frontières dans l'Himalaya. La presse rapporte des dizaines de morts du côté des deux armées. Voilà 45 ans que le différend frontalier qui oppose les deux pays n'avait pas fait de victimes, rappelle The Hindu. Mais depuis plusieurs semaines, la tension montait alors que la Chine amasse troupes et infrastructures dans la région. Déjà renforcé par le virus, le sentiment anti-chinois a redoublé hier, rapporte India Today. Des portraits du président Xi Jinping ont été brûlés, pendant que le hashtag « Donner une leçon à la Chine » faisait la une sur Twitter. The Print rappelle que des pourparlers étaient pourtant engagés depuis le 6 juin entre les deux plus grandes puissances militaires d'Asie dotées de l'arme nucléaire. Ceci devrait se poursuivre pour espérer une désescalade.
Merci Côme Bastin en Inde pour Europe 1. Charlotte Simonard est au Kenya. Bonjour Charlotte.
Bonjour Mathieu.
De quoi parle-t-on au Kenya ?
Eh bien, ici, on parle de la peste du sexe. C'est ainsi que les médias kényans qualifient le boom alarmant des grossesses adolescentes depuis la crise du Covid-19. 4000 filles mineures sont tombées enceintes ces trois derniers mois, rien que dans le comté de Machakos. Le quotidien Le Daily Nation précise que ces chiffres enregistrés dans les hôpitaux sont sans doute bien inférieurs à la réalité. Alors, Machakos est une région rurale aux abords de Nairobi. Beaucoup de Kényans qui travaillent dans la capitale y ont envoyé leurs enfants chez leurs grands-parents ou chez des proches, dès la fermeture des écoles décrétée mi-mars, explique le quotidien. Des milliers de fillettes sont ainsi livrées à elles-mêmes, devenues des proies faciles pour des prédateurs sexuels, souvent au sein même de la famille. C'est ce que détaille la radio Capital FM, pour qui le phénomène est probablement national.
Charlotte Simonard au Kenya, nous sommes en Pologne à présent avec Fanny Bouco. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu.
De quoi est-ce qu'on parle en Pologne ?
Du dérapage d'Andrzej Duda sur les LGBT. Le président en campagne pour sa réélection a déclaré que ce ne sont pas des personnes, mais une idéologie. Plus de 200 médecins et scientifiques en une du journal Wyborcza demandent l'arrêt des attaques contre les LGBT avant qu'une tragédie ne se produise. En perte de vitesse dans les sondages, le pouvoir revient à ses vieilles méthodes pour récupérer le vote de l'extrême droite. Et pour essayer de stopper la montée du candidat de l'opposition, une machine de propagande toute prête à disposition, la télévision publique. Chaque jour, de nombreux dossiers, vrais ou faux, sortent sur le candidat. Dernier en date, il veut restituer les biens spoliés aux Juifs sans le consentement des Polonais, actuels propriétaires. Or, il a seulement dit que le sujet devait être évoqué avec des associations juives. NDLGBT et relents antisémites dominent donc la campagne en ce moment.
Merci beaucoup Fanny Bouco. La Pologne, le Kenya et l'Inde, c'était la revue de presse internationale. C'est tous les matins sur Europe 1 à 7h10.
Europe 1. Dans un instant, le journal avec Hélène Zélani. La météo, juste avant, à tout de suite sur Europe 1.